Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
Auditeurs, auditrices qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix, bonjour, Dominique Mugerin avec vous. Il y a quelques jours, à l'invitation de l'association Liane Panier, nous nous sommes rendus du côté de Sainte-Anne pour assister à une conférence débat sur le cinquantenaire de la loi Veil sur l'IVG, sur l'interruption volontaire de grossesse. À la Commission diocésaine Justice et Paix, nous nous intéressons à tous ceux qui font le quotidien de l'homme et chacun a le droit d'être informé sur tout ce qui fait le monde dans lequel nous vivons. Sans prendre parti, et sans juger, chacun a le droit de se faire son opinion. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas en une heure tout retransmettre. Nous allons nous contenter de quelques passages qui nous éclaireront un peu plus. Bonne écoute.
Radio Sophia Altitude.
La radio de votre cœur.
Je suis avec la présidente de l'association Liane Panier, madame
Mugerin Camille.
Bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de toutes les radios qui m'écoutent.
Aujourd'hui, cinquantenaire de la loi Veil.
Eh bien oui, cinquantenaire de la loi Veil, votée en décembre 1974 et publiée en février 1975. Donc nous sommes bien dans le cinquantenaire de la loi Veil. Et la loi Veil, c'est la loi légalisant l'avortement en France. Rappelez-vous, il y a 50 ans, l'avortement était un crime. Donc, cette loi légalise l'avortement, c'est-à-dire que les femmes, manifestement, ont le droit d'avorter sans risquer d'être condamnées, sans risquer d'être poursuivies par la loi et dans des situations bien encadrées par la loi. Ce n'est pas laisser les femmes avorter, ce n'est pas pousser les femmes à l'avortement, mais c'est-à-dire encadrer tous ces avortements clandestins qui se faisaient pour aussi assurer la sécurité des femmes. Parce que beaucoup de jeunes filles, de mes copines, sont mortes il y a 50 ans parce qu'elles étaient enceintes et elles se sont fait soit avortement clandestin, soit elles se sont suicidées parce que c'était l'opprobre. Être enceinte, être fille-mère, il y a 50 ans, 55 ans, c'était un drame pour les gens, pour les familles et pour les filles.
Heureusement que les choses ont évolué.
Oui, les choses ont évolué.
Et pourtant, ce n'est pas facile.
Et ce n'est pas facile.
Parce qu'il y a toujours le jugement.
Et il y a toujours le jugement. Mais comme c'est encadré par la loi, c'est ce que nous voulons savoir justement. Nous avons porté ce sujet sur le tapis cette année parce que nous avons trouvé que c'était une situation,
une thématique qu'il fallait aborder.
Voilà, un thème qu'il fallait aborder parce qu'effectivement, on ne sait pas. On n'en entend pas parler à la radio, on n'entend pas parler dans la presse. On ne sait pas comment ça se pratique en Guadeloupe. Si ça se pratique, est-ce que c'est un droit qui est toujours en vigueur en Guadeloupe? Parce que même en France, je vous le rappelle, je vous le dis, que c'est un droit qui a tendance à reculer. Il y a beaucoup de cliniques, beaucoup de professionnels qui refusent maintenant de pratiquer cet acte. Une femme qui veut pratiquer un avortement, c'est son droit qu'elle demande à pratiquer, c'est ça. Elle ne veut pas être en dehors de la loi. Elle veut être dans le cadre de la loi.
Il y a certainement beaucoup de cas particuliers. Tout à l'heure, je vais, avant la conférence, essayer de voir ces professionnels qui sont invités pour cette conférence débat, qui doivent débattre avec le public. Mais il est sûr et certain que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'une femme se fait avorter.
Et oui, et Mme Simone Veil l'a dit dans son discours à l'Assemblée nationale, discours de présentation de ce texte à l'Assemblée nationale, elle a dit en tant que femme, je vous le dis, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Parce que c'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. Voilà.
Raison pour laquelle il ne faut jamais juger, parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Et nous savons très bien que le seul juge qu'il y a, c'est le Tout-Puissant, c'est Dieu. C'est vrai que nous devons encadrer certaines choses, c'est vrai. Mais il faut regarder aussi la détresse des gens et les accompagner. l'accompagnement des personnes est nécessaire, certainement que les professionnels qui vont débattre cet après-midi vont le dire.
Oui, et surtout, pensez à l'enfant qui va naître. L'enfant qui va naître dans une situation... Si une femme ne veut pas sa grossesse, ne veut pas l'enfant qui est en train de naître en elle, l'enfant qui est en train de grandir en elle, comment sera cet enfant quand l'enfant va naître? Elle peut aussi très bien accepter cet enfant, mais aussi très bien le rejeter. Quelle sera la vie de cet enfant? Madame Velle aussi en parle dans son texte. Elle prend conscience de ça. Elle prend aussi conscience du rôle du père, parce qu'il ne faut pas oublier le père dans ça, parce que cet enfant a aussi... La dame n'a pas fait l'enfant seule.
Il y a un papa, il y a un père.
Il y a un père. Donc, la vie du père aussi dans ça. Donc, voilà. Je crois que c'est une thématique à aborder, une thématique à défendre, une thématique à connaître, et surtout dans le but d'informer les gens, les femmes.
Liane Panier, chaque année avec des thèmes différents, des thèmes d'actualité, c'est important.
Oui, c'est ça. Parce que les trois dernières années, nous avons interrogé le féminisme. Et on peut retrouver ces émissions sur vos radios. Voilà, nous avons interrogé le féminisme, c'est-à-dire comment pensent les hommes de l'évolution des droits des femmes. On a interrogé les hommes, la population sur la parité, l'égalité, etc. Les droits acquis par les femmes changent considérablement les rapports sociaux. Les rapports dans la famille, les rapports au travail, les rapports entre les gens. On ne peut plus considérer la femme, aborder la femme comme on le faisait il y a 15, 20, 30 ans. Et tous les faits, les événements dont nous entendons parler à la radio, à la télévision, les procès qui sont faits aux hommes par les femmes, qui il y a 20 ans, 30 ans se rappellent comment un homme les avait malmenés et maintenant qui font un procès à ces hommes-là, ça vient aussi de ces droits acquis par les femmes. Maintenant, elles n'osaient pas se faire respecter il y a 20 ans, 30 ans. Maintenant, elles demandent d'être respectées en tant que femmes.
Elles n'ont plus peur.
Elles n'ont plus peur et on leur demande de ne plus avoir peur. Mais ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Droit acquis par les femmes ne veut pas dire femme a droit de faire n'importe quoi. Femme a droit de faire ce qu'elle veut. Femme a droit de manquer de respect aux autres, de manquer de respect aux hommes. Non, c'est pas ça.
Donc là, on va surtout parler d'égalité. Nous sommes égaux.
Nous sommes égaux. Oui, nous sommes égaux. Nous sommes arrivés à un moment où l'homme vaut la femme. Enfin, je m'entends quand je dis l'homme vaut la femme. C'est-à-dire, en termes de droit, l'homme vaut la femme vaut l'homme.
Il n'y a pas l'un supérieur à l'autre.
Non, il n'y a pas l'un supérieur à l'autre. Nous ne menons pas un combat contre les hommes. Hein. Au contraire, nous voulons un combat avec les hommes. Voilà. C'est comme ça que la société sera équilibrée. Quand l'homme et la femme s'entendront, se comprendront, se parleront en toute égalité.
Avant que j'aille interviewer les professionnels ici présents, avant le début de cette conférence débat, hein, je voudrais quand même qu'on parle rapidement de Liane Panier. Liane Panier, c'est une association de Sainte-Anne.
Oui, Liane Panier, c'est une association, je dis, c'est une association de quartier. C'est pas une grosse association, mais c'est une association assez dynamique, active. Voilà, elle fait des choses, elle pose des problèmes sous le tapis, elle organise des sorties, des temps, des conférences. On a visité le mémorial d'acte et le fort fleur d'épée au mois de novembre. Là, nous posons le problème sous l'avortement. Bientôt, à la fin du mois, nous allons visiter les sites culturels et historiques de Petit Canal. Donc, nous essayons de diversifier nos activités tout en nous enrichissant.
Merci beaucoup, Camille Muge.
Merci, Dominique.
Allez, je vais interviewer les professionnels. Et ensuite, la conférence débat va commencer. Madame
Létain.
Qui est ?
Je suis sage-femme au centre d'ontogénie du CHU depuis 2 ans maintenant.
Métier passionnant.
Oui, métier passionnant où on a plusieurs cordes à notre arc au final.
Aujourd'hui, nous allons parler du cinquantenaire de la loi Veil.
Alors, c'est une loi qui a été votée en fait pour protéger les femmes avant tout, puisque du coup, elle leur permettait d'accéder en toute légalité à l'avortement. Donc, ça dépénalisait en fait un acte qui était puni hein, par la loi jusque-là.
Ça se faisait dans la clandestinité à cette époque-là.
Tout à fait. C'était illégal et ça se faisait vraiment de façon sauvage en mettant en danger en fait finalement la santé des patientes.
Depuis, de l'eau a coulé. Beaucoup disent que les femmes ont pourtant accès à la contraception. La contraception, elle existe. Et pourquoi l'IVG ? Et vous leur répondez quoi ?
Alors, effectivement, j'ai souvent cette remarque, en fait, hein, pourquoi les patientes, elles ne prennent pas la contraception et elles préfèrent avoir accès à l'IVG. Il faut savoir qu'elles ne préfèrent pas avoir accès à l'IVG. Il y a plusieurs raisons qui poussent les femmes à avoir recours à un avortement. Ça peut être le viol, ça peut être une relation qu'on pensait être stable et qui finalement, on se retrouve que c'est pas vraiment ce qu'on croyait au bout de quelques semaines de grossesse. Donc du coup, ce sont pas forcément des patientes qui n'ont pas voulu prendre la contraception. Et puis il faut savoir aussi que par rapport aux réseaux sociaux, à l'accès à l'information, en fait, on a beaucoup diabolisé en fait les hormones, la contraception. Donc c'est vrai qu'on a une patientèle aussi qui a peur de se mettre en danger et qui se dit au final, quand on regarde bien, il vaut mieux avorter que d'avoir un cancer du sein ou un cancer de l'utérus ou que sais-je en fait.
Donc tous les cas ne sont pas pareils.
Non, tous les cas ne sont pas pareils et c'est là justement où c'est intéressant d'accompagner ces patientes qui sont en détresse de toutes les façons, hein. Peu importe la raison qui les emmène à avoir recours à l'IVG, il faut savoir qu'elles n'y ont pas accès de gaieté de cœur. Voilà.
Alors donc nous devons justement dire aux gens qu'il faut arrêter de juger, et je l'ai déjà entendu qu'elles le font, mais que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas de gaieté de cœur.
Tout à fait. Il faut arrêter de juger parce que c'est pas un acte qu'on fait facilement. C'est pas évident pour elle et ça demande beaucoup d'accompagnement. D'ailleurs, nous travaillons avec une psychologue dans notre équipe qui prend en charge en fait ces patientes qui sont en détresse. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que on recommande souvent la consultation avec la psychologue dans l'accompagnement que nous proposons. On le cache à l'entourage parce qu'effectivement il y a le jugement.
Les religions ont un poids aussi là-dessus.
Tout à fait, le poids de la religion, parce que du coup c'est interdit par la Bible et c'est vrai que du coup elles ont ce poids là parce que elles n'ont quelque part elles ont, alors je vais pas dire qu'elles n'ont pas le choix, on a toujours le choix, mais quand elles viennent à nous en fait ça reste le seul choix qui leur est évident en fait par rapport à la situation qu'elles vivent. Donc c'est vrai que c'est pas évident et moi j'ai envie de dire aux gens de pas juger parce que c'est pas un acte qu'elles font facilement et moi j'ai envie de dire que elles savent si elles sont capables ou pas d'élever cet enfant qu'elles portent. Et si elles ne peuvent pas, au final, elles sont contraintes en fait d'avoir accès à l'avortement.
Vous prenez plaisir à accompagner les gens?
Alors, je prends plaisir à quand j'entends les patientes me dire quand je serai enceinte et que ça ira mieux, je viendrai vous voir. Et là, je me dis c'est que j'ai bien fait mon travail. Donc, oui, je suis contente de les accompagner parce que je les vois à un moment de leur vie où elles sont vraiment en détresse. Et je me dis, au final, c'est comme ça, c'est la vie, elle n'est pas toujours rose. Et on est là pour ça aussi, les accompagner quand ce n'est pas rose.
De toute manière, pour pouvoir faire ce métier, il faut aimer les gens.
Il faut aimer les gens, il ne faut pas juger, il faut aimer les gens, c'est ça.
Merci beaucoup. Alors, bonne conférence. Hein?
Merci beaucoup.
Il y a cet après-midi plusieurs intervenants pour cette conférence sur le cinquantenaire de la loi Veil. Et maintenant, je suis avec Madame
Amétis Marie-Laure.
Qui est?
Je suis coordinatrice de parcours au JPRASPEG, référente du DSR en périnatalité.
Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout.
Alors le JPRASPEG, c'est un groupement d'intérêt public donc qui a plusieurs dispositifs à l'intérieur. Donc le dispositif pour lequel je suis référente, donc le dispositif spécifique régional en périnatalité qui accompagne les professionnels de santé autour de la périnatalité mais aussi les familles en lien avec l'ARS dont on est expert en périnatalité. Il y a aussi le dispositif d'appui à la coordination qui accompagne les personnes qui sont en situation complexe. Le dispositif d'éducation thérapeutique du patient pour les personnes qui ont de l'asthme, de l'hypertension pour leur apprendre à vivre avec la maladie. On a aussi un réseau CARU Urgence qui accompagne les professionnels de l'urgence et très bientôt un dispositif pour les enfants en situation d'obésité.
Un gros programme et beaucoup de choses que vous faites. Votre présence ici cet après-midi pour ce cinquantenaire de la loi Veil sur l'IVG.
La périnatalité, ça parle vraiment de la femme dans toute sa vie génésique. Donc la contraception et l'IVG font partie de la vie des femmes et on est là aussi pour en parler parce que c'est important de parler d'IVG et de contraception. Les deux sont liés et c'est aussi l'IVG, c'est en lien avec les naissances, mine de rien, c'est arrêter une grossesse et il est important de comprendre les raisons, le pourquoi et pourquoi aussi la Guadeloupe est un des départements où on fait le plus d'IVG en France.
Vous m'apprenez quelque chose, certainement que nos auditeurs, eux, le savent déjà, la Guadeloupe est vraiment le premier département en la matière.
Alors, pas le premier, mais en tout cas l'un des premiers et notre but aussi, c'est de pas d'empêcher qu'il y ait des IVG, au contraire, mais surtout de permettre aux femmes, avant d'arriver à l'IVG, de comprendre toutes les méthodes qui vont leur permettre de se protéger et surtout de réguler les naissances dans le sens où elles le souhaitent.
Parce que c'est pas toujours fait de gaieté de cœur, un IVG.
Alors je pense qu'une IVG n'est jamais faite de gaieté de cœur, c'est toujours une décision qui est lourde de sens et de conséquences, mais quand on arrive à faire ce choix, c'est parce qu'il y a une raison, il faut l'accepter.
Comme je le disais tout à l'heure avec la sage-femme, hein, Madame Létain, il faut aussi que nous arrêtions certainement d'être dans le jugement, et heureusement que vous êtes là pour pouvoir les accompagner.
Tout à fait, on est là vraiment pour avoir ce rôle de communication. Quand on parle d'IVG, de contraception, en fait, en vrai, on parle beaucoup de santé sexuelle, ça fait partie de la santé sexuelle, et on vit dans un département où encore il y a beaucoup de tabous sur ce qui est de la sexualité, ce qui est des relations saines, et donc tout ça, ben, ça se mélange et ça fait qu'on se trouve parfois dans un jugement. On pointe du doigt tout ce qui est lié à la sexualité alors qu'il ne faudrait pas. Justement, la communication et le fait de pouvoir aborder les sujets de manière naturelle et logique permettrait sûrement de dépatouiller, en tout cas de démêler certaines situations.
Donc une conférence comme celle qui va commencer dans un instant, elle est importante, elle est nécessaire.
Oui, ça me paraît tout à fait nécessaire. Il est important de parler de ces sujets. Il est important qu'on soit conscient de ce qui se fait chez nous. Il est important aussi qu'on soit présent. Je parle beaucoup des femmes, mais en fait, c'est des couples, auprès des couples qui vont prendre ces décisions et surtout les accompagner pour qu'ils ne se sentent pas seuls ou jugés par rapport à cette décision.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Avant que la conférence ne commence, je suis avec...
le docteur Nina Detto.
Vous êtes
gynécologue médical au CHU de Pointe-à-Pitre et je suis le médecin responsable du service d'IVG, d'orthogénie.
Le cinquantenaire de la loi Veil, une loi qui était nécessaire, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec les autres, elle était nécessaire, il fallait cette loi et pourtant jusqu'à aujourd'hui, les jugements continuent.
Oui, on ne peut pas s'empêcher de juger. C'est plus facile de juger les gens quand on n'a pas été dans la situation, mais je pense qu'il faut prendre du recul. Déjà, de façon générale, ne pas juger les gens dans la vie quotidienne et se dire que les femmes qui prennent une décision de faire l'IVG, alors elles pensent à elles, mais aussi à l'enfant qui aurait pu naître, à elles, parce que chaque femme a le droit de choisir si elle veut être mère et à quel moment elle sera mère. Et aussi, on peut dire oui, mais elle pourrait accoucher sous X ou laisser l'enfant à l'adoption. Il y a plein de parents qui sont prêts à adopter des enfants. Oui, il y a des enfants qui vont être adoptés, d'autres qui vont finir à l'aide sociale à l'enfance. Et on sait que ce parcours-là est assez compliqué. On sait qu'il y a un enfant sur deux qui passe par l'aide sociale à l'enfance qui est victime de violences avant ou pendant. Donc, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas pensé aux enfants, en fait. Et se disent que c'est une vie qu'elles ne vont pas mener de façon sereine pour elles et pour les enfants.
Votre métier, votre profession vous permet de côtoyer toutes ces personnes, hein, ces femmes et certainement aussi par moments des couples. Vous voyez la détresse des gens?
Oui, après je pense qu'il faut se dire que l'IVG n'est pas forcément fait dans des cas de détresse. Parfois ce sont des choix de vie que les gens font, mais il y a parfois des situations de détresse importantes, des femmes qui avaient des projets de grossesse en couple et le couple s'est séparé, il y a eu des changements de projet ou alors qu'ils se rendent compte que c'est pas le moment d'accueillir un enfant. Et parfois, c'est des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui ne le disent pas forcément, ou alors qui ont été violées. Donc, dans certains cas, et dans pas mal de cas, il y a de la violence ou des jeunes filles qui ont été violées et qui ne mettent même pas le mot de viol dessus. Donc, oui, il y a pas mal de détresse dans le contexte d'IVG.
Aujourd'hui, cette conférence, elle est certainement nécessaire et importante. Qu'est-ce que vous allez dire à l'Assemblée?
Je pense que c'est bien de continuer à se battre pour l'accès au droit à l'IVG. On pense que c'est quelque chose, au bout de 50 ans, qu'on n'a pas besoin de lutter pour ce droit-là. Mais on voit dans d'autres pays qui sont dits développés, comme aux États-Unis, où le droit a reculé, il y a des États qui punissent l'avortement, qui punissent les médecins, qui sont dans d'autres États qui permettent l'avortement, qui punissent les médecins d'avoir aidé des patientes, même des femmes qui ont été violées et qui viennent se faire avorter suite à un viol. Et on voit que le droit à l'IVG recule en fait dans le monde. Donc en fait, il faut continuer à se battre, continuer à discuter, à ouvrir les esprits sur ça pour que ce ne soit plus un tabou. C'est un choix qui est fait par beaucoup de femmes. Il y a plein de femmes qu'on connaît, qu'on fréquente, nos mères, nos voisines, nos sœurs, nos cousines, nos collègues, nos chefs, nos employés qui ont fait des IVG, qui ne vont jamais le dire. Et en fait, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Et l'IVG ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes.
De quelle manière?
En s'impliquant pour que les femmes n'aient pas forcément à prendre cette décision-là. Parfois, il y a des partenaires qui vont pousser les femmes à faire des IVG ou au contraire qui veulent les forcer à garder le bébé. Mais aussi en amont à réfléchir au risque de grossesse. Dans certains cas, c'est un problème de contraception, mais parfois les gens se disent que la chance va faire qu'ils ne vont pas être confrontés à ça. Et autant les femmes vont devoir faire le choix de l'IVG ou pas, les hommes, ils n'ont pas leur mot à dire, entre guillemets, parce que c'est pas eux qui prennent la décision. Ils peuvent être là pour accompagner, mais en fait, eux, ils ont le choix de partir s'ils ne veulent pas faire face à la grossesse. Donc, je pense qu'on devrait militer pour que ce soit toujours le cas d'avoir ce droit-là.
Sans trahir le secret médical, le secret professionnel, on peut dire que les femmes de toute âges sont concernés?
Tout à fait. On a des femmes de tous âges, des adolescentes qui sont parfois au lycée, parfois même au collège, qui ne connaissent pas l'anatomie. On a des femmes, c'est déjà arrivé, des femmes de 50 ans qui pensaient qu'elles étaient ménopausées et les règles ne sont pas venues, donc elles se sont dit que c'était la ménopause et finalement c'était une grossesse. On a des femmes sans emploi, enfin on va dire de milieux sociaux plus défavorisés et des femmes de milieux plus, on va dire, éduqués ou qui travaillent, des avocats, des médecins, des pharmaciens. Donc il y a toutes les professions, des femmes de ménage, toutes les professions sont représentées et il ne faut pas se dire que c'est quelque chose que seules les femmes de, comment dire ça, de mauvaise réputation, de mauvaise vie vont faire en fait. Toutes les femmes sont concernées.
Alors donc on peut dire aujourd'hui, heureusement qu'il y a un service comme le vôtre, hein, certainement dans tous les hôpitaux de France et de Navarre qui sont là pour pouvoir répondre aux attentes de ces personnes.
Tout à fait, on sait qu'il y a eu pas mal de fermetures de maternité en France. Ici on a plusieurs centres hospitaliers qui pratiquent l'IVG, au CHBT ils en font aussi. L'IVG c'est pas seulement à l'hôpital, on peut le faire si on est suffisamment tôt par la méthode médicamenteuse, en consultant des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynécologues qui sont conventionnés avec des centres qui le pratiquent pour faire l'IVG et ça permet d'améliorer l'accès à l'IVG. Donc,
Alors, moi, je retiens, après avoir discuté avec vous, nous pouvons dire à nos auditeurs qu'il ne faut surtout pas être dans le jugement. Tous les cas ne sont pas pareils et il y a effectivement des situations qui méritent vraiment que la grossesse de ces femmes soit interrompue.
Tout à fait. Je pense que la seule personne qui est à même de juger si l'IVG est nécessaire, c'est la femme. Comme je dis aux patientes quand elles consultent, il faut qu'elles prennent le temps si elles ont besoin de temps. Il y a des femmes qui sont sûres de leur décision, qui n'ont pas de regrets après, que c'est la bonne décision. Que ce soit de faire l'IVG ou de garder la grossesse, de garder le bébé, il faut qu'elles soient sûres. Que même si après elles sentent un coup de mou, qu'elles se disent c'est dur comme décision, qu'elles se disent c'est ce qu'il me fallait pour moi. Donc c'est chaque femme à l'intérieur d'elle-même qui sait ce qui est bon pour elle.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne soirée.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya altitude.
Bonsoir, merci d'être venu cet après-midi. Merci d'honorer notre invitation. C'est l'association Liane Panier qui vous accueille.
Madame Camille Mugerin, présidente de l'association Liane Panier, va présenter cette table ronde. Écoutons quelques extraits.
Nous essayons d'intervenir dans tous ces domaines et 2-3 manifestations par an. Nous ne sommes pas des spécialistes et chaque fois que nous organisons, nous essayons de trouver des spécialistes, des personnes qui peuvent répondre aux questionnements que nous mettons sur la table. Nous sommes en 2025, il y a 50 ans, c'était ma pleine jeunesse et je me souviens de cette loi de Madame Veil qui a été votée en décembre 1974. Publiée en février 1975. Donc, elle a exactement 50 ans. Ceux qui ont mon âge se rappellent qu'il y a 50 ans, 60 ans, les mouvements militants, de femmes militantes descendaient dans les rues de Paris, de Londres, de New York, etc., dans le monde. C'était un mouvement international et leur slogan, c'était « Mon corps m'appartient, mon ventre m'appartient, un enfant si je veux, quand je veux ». Elles ont plus ou moins poussé le gouvernement français et surtout les pays européens aussi à légiférer sur l'avortement. L'avortement était un crime il y a 50 ans. Beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup de mères se sont retrouvées en prison, au tribunal, parce qu'elles ont aidé leurs filles à avorter. Beaucoup de pères aussi ont aidé leurs filles à avorter. Et cette loi mettait de l'ordre dans ça. L'avortement n'était plus un crime. Je vais vous lire quelques extraits du discours de Madame Veil pour bien comprendre, pour bien situer le problème en 1975. Notre manifestation sera animée par Madame Marie-Hélène Lomuno, à qui je passe le micro pour la suite des événements. Merci à vous.
Bonsoir à tous. Merci à l'association Liane Panier de me faire confiance
pour conduire cette table ronde. Autour donc de la table, nous avons donc deux sages-femmes et une gynécologue.
Je suis Marie-Laure Amétis, je suis sage-femme. Je suis aussi coordinatrice de parcours au niveau du dispositif spécifique régional en périnatalité. Et notre rôle, vraiment, c'est d'accompagner les professionnels de santé sur les questions de périnatalité en tant qu'expert auprès de l'ARS.
Vous, Cynthia Létain, sage-femme au centre d'orthogénie du CHU.
Nina Detto, je suis médecin gynécologue médicale. Je suis médecin responsable du centre d'orthogénie, donc le centre où on pratique les IVG au CHU.
Dans un premier temps, un extrait du discours de Mme Simone Veil.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
ce discours est très long, nous n'allons pas l'écouter dans son intégralité, juste quelques petits passages et nous continuons avec nos invités.
Sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. En quoi les choses ont-elles donc changé qui obligent à intervenir? Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel? Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur? Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de promouvoir une politique familiale généreuse et constructive qui permette à toutes les mères du monde d'élever les enfants qu'elles ont conçus? Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes. La plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut plus non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise, je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Les deux entretiens que l'on a eus, ainsi que le délai de réflexion de 8 jours qui lui sera proposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays.
Discours à retrouver dans son intégralité. Il suffit de taper sur Google. Un micro-trottoir aussi a été réalisé. Très intéressant. Une grande méconnaissance, hein, en attendant les réponses. Mais là aussi, nous ne pouvons pas diffuser ce micro-trottoir parce qu'il est assez long, mais très intéressant. Nous allons à la rencontre de nos invités.
Les femmes aujourd'hui en Guadeloupe, est-ce qu'elles sont informées de toutes les lois à propos de la maîtrise de leur maternité?
La question de l'information et de la communication sur la contraception, même si elle est faite, hein, mais elle est faite à la sauce hexagonale, j'ai envie de dire. Quand on a une campagne de communication, ma pilule, etc., elle est complètement calquée de ce qui est fait en France et ça arrive ici, sans prendre en compte finalement les particularités de notre société et notre rapport à la contraception qui est sans doute très différent avant même d'arriver à l'IVG. Nous, en fait, dans ce dispositif, on a démarré l'année dernière ce qu'on a appelé un forum de la santé sexuelle qui s'adresse plutôt aux jeunes, au grand public, mais aussi aux jeunes. On a fait ça à Marie-Galante en décembre et on l'a refait il y a très peu de temps, en mars dernier, dans un collège ADN. On se rend compte que finalement les jeunes sont intéressés, qu'ils ont des questions pour lesquelles on est là pour répondre. Mais quand on leur demande si ce sont des sujets sur lesquels ils peuvent échanger avec les adultes les plus grands, et bien tout de suite, on est dans le tabou, on n'en parle pas. C'est des choses qu'on ne dit pas. Dans notre façon de voir les choses, on a voulu intégrer aussi bien du coup les plus grands, les adultes et les parents. Et pour les questions de santé sexuelle, les parents sont aux abonnés absents. Je pense que c'est important de le dire et de se rendre compte qu'avant même de parler d'IVG, ce qui est important, c'est que dans notre société guadeloupéenne, la question de la santé sexuelle, connaître son corps, savoir qu'est-ce que c'est, comment je respecte mon corps, comment il fonctionne, comment gérer à quel moment je vais décider d'avoir un enfant ou pas, ce sont des questions qui sont encore très peu abordées, qui restent dans l'intimité, certes, mais ce n'est que l'intimité de la femme, ce n'est même pas l'intimité du couple. Et quand il faut aller plus loin, quand cette grossesse démarre, même on se retrouve des fois dans les demandes d'IVG où ça se fait, ben, la femme, elle est seule, sans son mari, qui n'est même pas au courant qu'elle est dans cette démarche.
Merci beaucoup. J'allais poser la question parce que je vais vous raconter quelque chose. C'est assez dramatique, mais il faut que je le dise quand même. En 1974, alors j'ai changé le prénom, Yolande, elle est lycéenne. Max aussi est lycéen, c'est son copain. Ils ont décidé de se marier après le bac. Quelques jours après les résultats du bac, elle se fait avorter clandestinement et elle meurt après plusieurs jours d'hospitalisation. Gilda, la sœur de Max et la mère de Yolande l'ont accompagnée chez le médecin avorteur. En fait, Yolande ne voulait pas se marier enceinte. L'Église ne l'aurait pas acceptée et Max n'était au courant de rien. Ce témoignage pose plusieurs problèmes. Parce qu'en fait, le cas de Yolande, c'est quoi? C'est je suis enceinte, je dis ça à ma mère. Les filles de la maison sont au courant, mais même les frères ne sont pas au courant. C'est une affaire de femme. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui?
C'est les deux à la fois. C'est une affaire de femme, c'est une affaire de couple. Avant tout, pour moi, c'est une affaire de femme. Le plus souvent, on voit les femmes qui viennent seules quand même en consultation. Est-ce que c'est parce que le conjoint ne s'est pas déplacé? Parfois, il n'y a pas de couple non plus.
Oui.
C'est, il y a des grossesses qui sont issues de viols ou d'autres choses, mais on ne va pas parler pour l'instant de ça. Mais en fait, il y a des couples qui viennent ensemble. Mais souvent, les femmes prennent la décision toutes seules. Parfois, on a des conjoints qui accompagnent et des fois, on se dit peut-être qu'il valait mieux qu'il ne soit pas là parce qu'il pousse la femme à prendre une décision qu'elle ne veut pas. Soit de garder la grossesse, soit d'avorter. Je pense que c'est une décision de femme, mais c'est bien que le couple soit impliqué.
Je pense que vraiment, là où la décision, c'est une décision de couple, et là où devrait y avoir une charge mentale, en fait, partagée, c'est au moment du choix et du suivi de la contraception. Malheureusement, ça, c'est encore trop souvent une affaire de femme. Comme c'est elle qui va porter la grossesse, c'est elle qui va prendre la pilule, mettre un implant, etc. L'homme doit être là aussi pour dire « Chérie, tu as pensé à prendre ta pilule ?» C'est presque l'heure d'aller de changer le stérilet. « Je vais venir avec chez le gynéco avec toi, le rendez-vous. Est-ce que tu veux que j'appelle pour prendre ?» Dans un couple, c'est le rôle aussi de l'homme d'être présent et d'assumer aussi cette contraception. Et puis peut-être que ce jour-là, madame, elle va dire « Moi, je suis fatiguée de prendre des hormones. » Et bien à ce moment-là, peut-être que lui, il va se dire « C'est à mon tour de gérer cette contraception et de choisir encore une fois ensemble. » C'est vrai qu'on est là pour parler d'IVG, mais je suis d'accord avec le fait que le choix final de faire ou pas une IVG doit revenir à la femme parce que c'est elle qui va finalement devoir assumer les conséquences jusqu'au bout. Mais par contre, tout le avant... Tout ce qui se passe avant doit être fait et réalisé toujours ensemble dans l'idéal.
On ne fait pas que l'accompagnement aux IVG, on fait aussi la contraception, puisque du coup, c'est le point de départ, hein, j'ai envie de dire, puisque on n'a pas que des patientes qui ne sont pas renseignées par rapport à la contraception. Mais c'est vrai que du coup, il y en a beaucoup qui ont peur. Et ça, j'ai envie de dire que c'est souvent par rapport aux réseaux sociaux où elles ont vraiment beaucoup d'appréhension par rapport à la contraception. Donc nous, on est là pour ça aussi, pour... la contraception.
Non, de l'appréhension par rapport à la contraception.
Par rapport à la contraception, par rapport aux hormones, par rapport à ce qu'elles entendent, qu'est-ce qu'elles lisent sur les réseaux. Et c'est vrai que on est là aussi pour dédiaboliser un peu tout ça et leur expliquer en fait ce qui existe en matière de contraception. Parce qu'on n'est pas là pour les juger, on est là pour les accompagner. Mais le but c'est qu'elles ne reviennent pas forcément pour la même raison en fait. Donc comment ça se passe en fait? Donc nous sommes une équipe, un gynéco, une sage-femme, une psychologue, un secrétaire. Et du coup, les patientes, elles se présentent directement à notre niveau. Il n'y a plus de délai de réflexion. Depuis 2016, il n'y a plus le délai de réflexion de 8 jours. Donc du coup, elles ont les deux consultations le même jour. Donc elles viennent à notre niveau. Elles ont une première consultation avec la sage-femme, la deuxième consultation avec le gynéco. On fait l'échographie pour dater la grossesse, pour savoir si elles sont dans un délai pour une IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Si elles sont sûres de leur décision, dans ce cas-là, on peut commencer le jour même, l'IVG médicamenteuse. Pour la chirurgicale, il faut une programmation.
Donc en fait, il y a une procédure quand même, et puis une procédure qui est assez rapide d'après ce que vous dites, puisqu'il n'y a plus de délai de réflexion.
On s'assure de savoir si elles sont sûres de leur, qu'elles soient sûres de leur décision, parce que l'idée c'est de ne pas se précipiter. Et d'ailleurs, très souvent en fait, on se rend compte que le fait d'avoir les deux consultations, des fois elles ont un discours différent devant le gynéco. D'ailleurs, quand je vois le couple,
on essaie de pas faire la même consultation, c'est-à-dire qu'elle, elle peut recevoir la patiente seule. Et à ce moment-là, parfois, on a des discours différents.
Et quel est le but véritablement de ces entretiens? Est-ce que c'est pour les amener à véritablement assumer leur acte, qu'elle n'ait pas à regretter après, qu'elle n'ait pas l'impression qu'on les a forcés?
Le but initial, enfin, je pense, de la légalisation de l'avortement, le but initial, c'était d'éviter toutes les complications qu'il y avait après les avortements clandestins. Parce que les avortements clandestins, soit les gens, ils allaient récupérer la grossesse, enfin l'aspirer, soit le but des traitements, de tout ce que les aiguilles à tricoter, les cintres que les gens utilisaient pour faire les IVG, parlons cru, le but c'était de développer une infection chez la femme pour que son corps expulse la grossesse pour finir avec l'infection. Donc le but premier d'avoir légalisé l'IVG et d'avoir mis en place les consultations, c'est de permettre de diminuer les complications chez les femmes qui pourraient avoir des enfants après, par la suite. Donc initialement, on a parlé de la notion de détresse dans le discours qu'on a entendu. C'était la détresse des femmes qui était entendue, qui était le premier motif, et avec un délai de réflexion. Actuellement, le délai de réflexion a disparu, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne le pratique pas. En fonction de la femme qu'on a en face de nous, on va avoir tendance à lui dire « Est-ce que vous voulez prendre quelques jours pour réfléchir ?» Et parfois même, ça nous arrive de dire « Madame, aujourd'hui, on ne vous donnera pas de comprimé. » Le but des consultations pour nous, ce n'est pas d'être là pour recueillir les raisons pour lesquelles les femmes font des IVG. Souvent, elles vont se raconter, mais on n'est pas là pour trouver une bonne justification de dire « Ah oui, oui, vous avez une bonne raison de faire l'IVG, vous non. » Souvent, les femmes vont nous raconter le contexte autour. On ne va pas forcément le demander, mais elles vont nous raconter le contexte.
Ah, fait, on met un manioc, monsieur.
L'équipe est ce jour.
L'équipe est qu'à offrir.
En bien.
On vient à d'anti conférence. Ça, c'est quand est née de la loi Veil qui permet aux femmes de faire interruption volontaire de grossesse. Ça, il va crier IVG. Parce qu'avant, ça était fait en clandestin et femmes étaient comme tout bonnement, je dis. En loi, comme ça, c'est nécessaire quand même.
Oui. Eh bien, tout ça, on peut dire devant ce l'honneur et respect, c'est mon aïe organisé manifestation là, ça. Mais chaque bidon qu'a fait, l'aile a fait arriver pour y faire. Heureusement, c'est mon aïe, ça t'est une présence d'esprit pour y te dire au cas organisé. Veille à présent, je dis là, on va parler, bon, on était à Lance Bertrand et à dans photo à Mounioni, photo à Yomilie. Heureusement, loi là, ça a résisté. Par là, les vieux pétillants, toujours tant de monde dit qu'on a voté, par là, n'a pas appris. Il y a toujours tant de monde dit qu'on est enceint, qu'on est mort ensemble. Alors, vous voulez ça continuer, faites Jean-La, il était fait là. Puis, si mieux, eh bien, je dis là, ça vient officiel, pas d'avoir. Imaginez-moi, madame, eh bien, vous violez. Et, bah, même pas d'autres exemples encore. Ah ben, tout ça va dire, ça, c'est un bon butin, un bon butin. En cas, permettez-moi de dire, moi. Ça fait mon nom à religion, il n'y a pas dit ça pas normal. C'est parler, mon gars, parler. Ça, c'est parole.
De les poser à plat et de voir dans le contexte, de prendre un peu de recul sur leur situation, parce que des fois on voit qu'il y a de la détresse et elles ne sont pas prêtes à parler. En général, aux Antilles, on a peur des psychologues, c'est pour les gens qui sont fous, qui ont des problèmes. Les gens n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin d'aller chez un psychologue, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. Donc en général, on leur propose. Dans certains cas, on voit que vraiment c'est nécessaire. Donc on va peut-être obliger, on va lui dire ah, « moi je vous revois après la psychologue », mais la psychologue, elle n'est pas là non plus pour augmenter nos statistiques. On n'est pas plus payé à la fin du mois si on a fait plus d'IVG. Donc
Est-ce que le nombre d'IVG est réglementé par aux femmes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un nombre que vous ne pouvez pas dépasser?
Pas du tout, il n'y a pas de nombre par femme. On dit que quand on fait une IVG par les médicaments, s'il n'y a pas eu de complications, si tout s'est bien passé, il n'y a pas d'impact sur la fertilité. Donc on a tendance à être rassurant chez les femmes quand elles parlent de « mais est-ce que plus tard je pourrais avoir un bébé ?» Parce que c'est ça la question qui vient souvent.
Oui, c'est ça.
Elles se disent « mais j'ai fait une IVG, ça va me rendre infertile. » On leur dit « non, une IVG par médicaments, s'il n'y a pas eu de complications, donc si ça se passe bien, il n'y a pas d'impact. » Par contre, quand on va répéter les gestes d'aspiration, une aspiration pour une IVG, entre guillemets, c'est pas grave, c'est pas censé avoir d'impact. Plus on répète les opérations et plus ça risque de faire des cicatrices sur l'utérus qui peuvent empêcher une grossesse future. Mais c'est des statistiques. Il y a des femmes qui ont fait 5 IVG par aspiration et qu'on revoit. Il y a des femmes qui banalisent un peu la chose et qui vous disent de toute façon, vous allez me revoir.
Quel type de femme effectue cette démarche? Est-ce que c'est des personnes très jeunes? Est-ce que c'est des personnes qui ont un certain âge, qui ont déjà des enfants? Qui rencontrez-vous? Qui vient?
Il y a une patiente que j'ai reçue récemment et je voulais partager un petit peu avec vous.
Oui.
Parce que c'est une patiente qui a 6 enfants de 4 papas différents, mm-hmm. qui avait un désir de grossesse puisqu'elle est dans une nouvelle relation, tout se passait bien. Mm-hmm. Et elle avait eu envie d'avoir un enfant de cet homme.
Elle veut avoir un 7e.
Oui, avec un nouveau compagnon avec qui ça se passe.
Mm-hmm. C'est bien.
Et du coup, elle vient pour une demande d'IVG parce que ce compagnon, qui était tellement pas en fait au début, elle annonce que la grossesse a beaucoup changé et il y a des violences conjugales. Donc là, elle se dit que non. Là, c'est un 7e enfant qu'elle va élever sans papa parce que du coup, c'est très différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle fait l'échographie, on fait les deux consultations et là, elle nous dit non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, c'est pas grave, je vais l'élever toute seule. J'en ai déjà élevé 6, donc un 7e de plus, c'est pas grave, je vais y arriver. Et du coup, on avait déjà tout programmé, on a dû annuler parce qu'elle s'est dit qu'elle allait garder sa grossesse. Donc c'est pour vous donner un exemple en fait, d'une patiente où nous, à sa place, on se dit, bon, nous, on aurait peut-être fait l'IVG. Et en réalité, non, en fait. Elle ne se sentait pas capable de le faire. Donc nous, on est juste là pour l'accompagner, on n'est pas là pour l'orienter dans son choix. Au final, elle était contente d'avoir discuté avec nous, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout de son acte.
Je crois que nous avons aussi chez nous la culture de la famille nombreuse. Ma maman, elle a pu m'élever. Elle a eu 7, 8 enfants, 9 enfants. Moi, je vais me débrouiller. Sauf qu'aujourd'hui, les enfants ont beaucoup plus de besoins. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'avant, dès que les enfants avaient à manger, c'était bon. Aujourd'hui, les enfants réclament un certain nombre de choses. Ils réclament d'aller au cinéma. Ils réclament ceci, ils réclament cela. La jeune femme que je connais, qui a 24 ans, c'est elle. Je lui dis, fais attention parce que finalement, tes enfants sont élevés dans la frustration. Et on ne sait pas ce que cette frustration-là peut entraîner dans leur vie future.
Après, je crois qu'au-delà de ça, avant, les enfants naissaient d'une femme, certes, mais ils grandissaient dans une communauté.
Oui, ouais. Le village.
Village, exactement. Et c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. Alors oui, il y a le cinéma, il y a ça, on a envie d'acheter des choses. Mais avant, même si on avait un seul enfant, il y avait tous les cousins autour, les voisins, etc. Et même si moi, je n'étais pas là, ma voisine ou ma cousine allait pouvoir jeter un œil sur mes enfants. Et là, c'est différent. Pour revenir à la question précédente, l'IVG n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur. N'importe quelle femme peut faire une IVG. Une femme qui a 6 enfants, une femme qui est cadre, qui a 40 ans, qui n'a pas d'enfant, mais qui ne souhaite pas en avoir, et entre guillemets, c'est un accident. Donc, toutes les femmes peuvent faire des IVG. Par contre, ce qui est important de
noter... Mais qui recevez-vous? C'est vrai que la loi, c'est pour tout le monde. Mais
tout le monde.
Qui recevez-vous?
Et vraiment, c'est vraiment du tout venant. Et là, par contre, où il faut faire attention, c'est que les consultations d'IVG, ce sont des consultations où on peut repérer beaucoup de choses.
C'est ça.
On peut repérer des situations particulières. C'est sûr. Et ces situations particulières, pareil, peuvent arriver chez tout le monde. C'est pas parce qu'une femme arrive bien habillée, bien coiffée, avec son parfum, que tout va bien. Et c'est pas parce qu'une femme a déjà 6 enfants et qu'elle veut faire une IVG ou garder son 7e enfant, qu'elle, elle a un problème. C'est vraiment du tout venant. Et l'équipe s'adapte aux demandes. Ici comme ailleurs, on n'est pas là pour dire, pour choisir qui peut avoir une IVG ou pas.
D'accord.
Ou pour même faire la personne se sentir coupable du choix qu'elle est en train de faire ou ne pas faire.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle qu'il y a quelques jours, nous étions du côté de Sainte-Anne afin de participer à une table ronde sur le 50e de la loi Veil. Sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse.
Alors, est-ce que vous avez un organisme à qui vous faites un rapport du statut social, une description, quelque chose, justement, dresser le portrait de ces femmes qui font la démarche pour l'IVG, qui et pourquoi et comment? Je pense qu'on a besoin d'avoir ces informations-là pour faire une bonne prévention, pour véritablement conscientiser, parce qu'à mon avis, il y a un travail de conscientisation à faire. Parce que moi, j'ai connu une femme qui a arrêté de faire des avortements après le 7e avortement, parce que ça lui a coûté un curetage au niveau de l'utérus, parce que c'était très dangereux. Voilà, elle faisait des avortements. Donc, on a véritablement besoin, à mon avis, de conscientiser les gens, conscientiser le couple, de conscientiser les femmes autour de cette question-là. Mais si on n'a pas d'éléments, si on a juste un chiffre, comment peut-on conscientiser les gens?
Alors, je vais commencer par répondre à la première question, du coup, sur les patientes que nous recevons. Donc, il faut savoir que On a des patients de tout âge, hein, vraiment de 12 à... Allez, des patients de la puberté jusqu'à la préménopause, parce qu'on a des patientes qui arrivent et qui me disent « Mais moi, je pensais que j'étais ménopausée, donc voilà, j'ai arrêté de prendre la contraception et, et qui se retrouvent enceintes et qui ne veulent pas garder la grossesse. » Et j'ai des patientes, pareil, très jeunes, qui me disent « Ben, moi, je pensais pas que je pouvais avoir des enfants. » On a également toutes les classes sociales. Donc ça aussi, on a la patiente qui a fait preuve de négligence, comme la patiente qui prenait sa contraception, qui malheureusement est tombée enceinte en prenant sa pilule ou en ayant son implant ou son stérilet. Donc on a vraiment tout type de patients.
Et c'est important ce que vous dites, d'avoir des chiffres. Avant, on avait des chiffres avec l'INSEE, on avait une fiche statistique où on disait le département de naissance de la femme, son âge, est-ce qu'elle était, elle travaillait, mère au foyer et compagnie. Depuis, je dirais, 2 ans, cette fiche a disparu. Donc, est-ce parce
qu'on avait l'anonymat total.
Assez de données auparavant. On a quand même des données par le biais de l'assurance maladie. Je pense qu'il peut faire des recoupements pour savoir combien d'IVG elle a remboursé. Ils ont l'âge des femmes et des choses comme ça. Mais maintenant, il n'y a plus cette fiche qu'on remplissait pour chaque patiente. D'accord. Et je reviens sur ce qu'elle disait. On a vraiment tous les âges, toutes les catégories socio-professionnelles. Parce qu'on a l'impression toujours que l'IVG, c'est quelque chose pour les femmes de petite vertu. Que c'est les femmes qui ne se respectent pas. Et en fait, on a toutes sortes de femmes qui sont en couple, pas en couple, qui ont plusieurs partenaires, un seul partenaire, qui sont mariés, ils viennent en couple. On a des avocates, des médecins, des pharmaciens, des boulangères. Et quand on regarde les gens dans la rue, eh bien, on ne peut pas savoir, mais en fait, que madame là a fait une IVG, celle-ci a fait une IVG. Donc, ce n'est pas écrit sur la tête des gens. Et heureusement, mais en fait, dans la société, on a ce tabou-là et on pense que c'est une certaine catégorie de femmes qui a recours à l'IVG, les femmes qui n'ont pas de moyens, qui profitent des aides ou pas. Enfin, on a des préjugés sur ça.
Il faut conscientiser. On ne peut pas confondre l'IVG et la contraception parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, autour de moi, j'ai ça. C'est d'accord pas... Donc, je me dis quand même, quelque part, c'est vrai que même si la loi existe, mais il faudrait que ça soit, et elle le disait d'ailleurs, qu'il faudrait que ce soit un acte exceptionnel. Il ne faut pas que ça devienne un acte banal.
La loi a fait disparaître justement cette notion de détresse. On a reconnu que finalement, ça devait être juste un choix des femmes, qu'il n'y a plus cette notion de détresse ou c'était réservé aux cas extrêmes. Donc oui, il faut éduquer les gens pour qu'ils soient conscients de la contraception. Mais nous, on fait face, comme elle disait tout à l'heure là, à plus de peur. Avant, la pilule a été légalisée et les femmes se rendaient compte que c'était une chance de pouvoir avoir la pilule. Elles étaient prêtes à subir certains inconvénients parce que maintenant, les nouvelles générations, il y en a qui se plaignent, qui disent « Oui, mais pourquoi c'est aux femmes seulement d'assumer la contraception ?» Ce qui est une vraie réflexion. Mais aussi, sont moins prêtes à prendre les risques liés à des fins indésirables. On peut toujours adapter une contraception à chaque femme, mais elles ne sont pas prêtes à essayer. Elles ne se rendent pas compte que dans la balance, si on n'essaye pas la contraception, il faudra peut-être essayer l'IVG, en fait. C'est plus un problème sur l'éducation, mais les gens ont peur maintenant, c'est pas naturel, et tout ça. Moi, j'ai tendance à répondre aux femmes qui me disent ça, mais la nature, elle veut que tu aies 13 enfants, en fait, et que tu les allaites pendant 2 ans, c'est tes enfants. Donc, la nature ne fait pas toujours bien les choses.
Et oui.
Donc, on est dans une société qui a évolué, donc on peut essayer de réfléchir comment réguler les naissances. Et après, c'est la décision de chaque femme, mais il faut qu'elle ait les informations et les cartes dans ses mains.
D'accord.
Mais parfois, les parents sont problématiques quand on reçoit des adolescentes, dans les deux sens. Parfois, c'est les parents qui demandent l'IVG et la mineure ne veut pas de l'IVG. Et d'autres fois, la mineure veut faire son IVG et les parents sont dans l'autre sens. Donc, vraiment, c'est pour ça que nous, dans le centre, on a l'avantage d'être deux. Elle voit la sage-femme, puis elle voit le médecin. Et en général, toutes les femmes, même les mineures, je les vois toutes seules initialement. Et après, je fais rentrer l'accompagnant pour que la femme me dise quelle est sa décision à elle avant que j'entende la décision de l'entourage. Mais c'est difficile à entendre pour des parents que nous, on fait des IVG à leurs enfants alors qu'ils ne sont pas au courant. Hein.
Alors, au niveau du centre, on fait très attention aussi au niveau de leur prise en charge, en fait, au niveau de la sécurité sociale, pour pas que les parents soient au courant du coup. Donc, on fait soit une procédure d'urgence pour celles qui n'ont pas du tout la possibilité d'avoir la carte de sécurité sociale de leurs parents. On prévient, en fait, la caisse de ne pas envoyer le courrier aux parents.
Je ne juge pas ces gens-là. L'année dernière, ils ont donné le taux d'IVG qu'il y a eu en Guadeloupe. Ma première réflexion me dit, mais il y en a qui l'utilisent comme moyen de contraception. Comme vous dites maintenant que les jeunes le font en dehors de leurs parents, peut-être ça aussi ils le font. Mais c'est le taux de l'année dernière était exorbitant. Moi, j'ai 60 ans. peut-être j'étais pas bien informé, mais les jeunes de maintenant de 25-30 ans, ils sont bien informés de moyens de contraception, de ce qu'il y a et tout ça, quoi.
Ils sont pas
alors,
forcément...
Alors, c'était bien exorbitant, quoi.
Le taux d'IVG a augmenté en France progressivement. Après, la population en France aussi a augmenté. Mais c'est vrai que la Guadeloupe est le deuxième département où il y a le plus fort taux de recours à l'IVG. Il y a 3 fois plus d'IVG en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Donc, c'est vraiment plus important. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a le côté culturel aussi, comme elle disait, la religion, le fait qu'on est plus sur les familles nombreuses, on est sur la femme potomitant qui va s'occuper de sa famille coûte que coûte. Et il y a un problème aussi avec l'éducation sexuelle, que ce soit par les institutions, mais aussi au sein des familles, où les gens ne parlent pas de l'intimité. Une fois qu'on n'a pas parlé avec nos enfants de la contraception, de la sexualité, on ne peut pas faire des surprises quand les enfants font des IVG. En fait, enfin, il y a des patientes qui viennent accompagnées de leur mère en consultation, elles disent « Ah non, moi j'ai pas de rapport, hein, maman, ah, je te dirai, tu es ma meilleure amie. » Et la maman dit « Oui, mais elle me dit tout. » Et on voit dans le dossier qu'elle a déjà fait une IVG, donc il y a un problème aussi de confiance dans les familles. Enfin, il faut pouvoir instaurer la confiance avec ses enfants pour parler de la contraception, et puis c'est pas que les filles. Donc il y a plus d'IVG maintenant, mais peut-être que maintenant les gens veulent moins de familles nombreuses, même si on en parle, ils veulent moins de familles nombreuses, ils veulent plus prévoir leur grossesse. Ça s'est peut-être un peu banalisé, et il y a de l'éducation à faire certainement de ce côté-là.
Et puis l'IVG, c'est aussi, si vous voulez, le sommet de l'iceberg. Mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. On est dans une société où il y a encore plein de choses qui sont non dites. On a tout notre passé aussi qui rentre en compte, qu'il faut prendre en compte. Et on parlait tout à l'heure de Simone Veil et du combat qui a été mené pour que les femmes aient accès à l'IVG. Mais en parallèle, en même temps à La Réunion, la France stérilisait des femmes. Donc c'est important aussi de se rendre compte que le recours à l'IVG a... peut-être plus de sens que ce qu'on veut bien donner aujourd'hui, mais il faudrait que nous, en tant que société, on prenne le temps de s'asseoir et de réfléchir aux implications et pourquoi ce recours est plus important en Guadeloupe que dans le reste de la France. Il y a aussi la peur de la contraception. Qu'est-ce qui explique ces peurs de la contraception? On parle de contraception, on peut parler de vaccination. Si on a plus de difficultés, nous, par rapport aux médicaments, tout ça doit rentrer en compte et pas juste être dans le jugement de dire « Ah non, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ici font plus d'IVG. » Oui, c'est une réalité statistique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre? C'est à nous de prendre le temps de l'étudier, de le comprendre en société.
Alors moi, je vais juste rajouter que c'est vrai qu'on a dit au début que la contraception, ça devait être aussi être l'affaire du couple, que c'est une décision qu'on doit prendre ensemble, que les hommes devraient plus s'impliquer. Moi, c'est vrai qu'en revanche, j'ai des patientes qui viennent me voir et qui me disent, par exemple, moi, je veux qu'on enlève le stérilet, même si ça me convient très bien, parce qu'il sent le fil et ça le gêne. Donc, je préfère rester sans, c'est pas grave, parce que ben, ça le gêne. Ou encore, pas de préservatif, parce que ben, il sent pas bien, enfin, il sait mieux sans. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a des cas où ben, les patientes, elles veulent faire plaisir, en fait, à leur compagnon. Et du coup, ben, quitte à prendre le risque, en fait, elles se disent, hein, mais il va pratiquer le retrait. Oui, sauf que ben, du coup, ça ne marche pas puisqu'elle se retrouve devant moi. Donc voilà, donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais je pense que oui, il faudrait vraiment informer les patientes sur la contraception et qu'elles aillent jusqu'au bout en fait, hein, de leur décision.
Dans la lignée de ce que tu dis, il y a eu un moment aussi où les gens se protégeaient parce qu'ils avaient peur du VIH. Les gens n'ont plus peur du VIH maintenant. Ça, ça ne guérit pas, mais les gens qui ont le VIH, ils sont bien pris en charge. Donc pourquoi on mettrait des préservatifs? Ok, il y a une défiance envers la pilule, très bien, mais les gens pourraient mettre des préservatifs. Mais en fait, ça ne sert à rien, les gens ne se protègent pas. Donc c'est retombé un peu cette vigilance par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Et puis finalement, elle va tomber enceinte. Il y en a effectivement qui vont banaliser. On l'enlève et puis c'est fini, mais c'est pas que ça. Il y a plein de choses derrière. Et puis, est-ce qu'il y a plus de précarité aussi? Est-ce qu'il n'y a pas plus de violence, de situations de couple et de situations familiales qui sont plus compliquées ici que dans d'autres départements? Il faut voir ça aussi, parce que les femmes qu'on voit, même celles que nous on voit et qu'on essaie d'interroger, elles ne vont pas forcément nous dire que c'est compliqué à la maison, qu'il y a des violences. Et peut-être que c'est pour ça qu'elles ne veulent pas rajouter de la précarité à leur situation. Donc il me semble qu'on est un département qui n'est pas parmi les plus favorisés de France.
Et puis on a beaucoup tendance à banaliser cette violence dans le couple. Alors ça fait très longtemps, mais pour avoir travaillé en orthogénie, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui m'explique que voilà, elle veut faire une IVG aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas démarrer une grossesse, elle a débuté une formation, mais que son compagnon veut absolument une grossesse et que la pilule dont elle a eu la prescription, il l'a jetée. Et donc elle a banalisé ça en disant bon ben il l'a jeté, mais moi je veux, donc je vais aller faire mon IVG, sans se rendre compte qu'en fait elle est en train de vivre une situation
extrêmement violente chez elle, mais sans vraiment en banalisant cette chose-là et juste en étant au stade de l'IVG. Donc c'est pour ça, encore une fois, que c'est le haut de l'iceberg, mais derrière, il se passe plein de choses.
Est-ce qu'il y aurait une autre question ?
Oui, quand je travaillais, j'étais assez étonnée parce que j'avais des jeunes filles en apprentissage. Et le nombre de jeunes filles qui se retrouvaient enceintes, j'étais très étonnée en lui disant « Mais quand même, tu ne savais pas que tu pouvais prendre la pilule et tout ?» Alors, il y en a... Elles étaient jeunes, hein. « Oui, mais tu sais, j'ai fait qu'une fois, donc je ne pensais pas que ça pouvait arriver. » L'autre, « Oui, je disais à ma maman mais d'aller chez le médecin. » Et maman disait « Oui, on va y aller, mais bon, elle n'avait pas le temps, quoi. » Enfin, tout avait des raisons. Mais je voulais savoir, même si l'éducation sexuelle ne se passe pas à la maison, parce que peut-être on ne peut pas le faire partout, il me semblait qu'à l'école, quand même, ils en parlaient un petit peu. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça ne se fait pas?
Alors, on en parle à l'école, mais tous les établissements ne font pas la même chose et tous les établissements n'ont pas forcément les mêmes intervenants. Alors parfois ça va être le prof de sciences de la vie et de la terre, donc de biologie, ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être des intervenants extérieurs, le planning familial, etc. Mais on se rend compte qu'en ici et en France, on commence à parler de contraception, d'IST, etc. aux enfants en quatrième. C'est tard. Les enfants sont exposés à la sexualité, au sexe, très tôt. Ça veut dire que finalement, on ne se rend pas compte que de plus en plus tôt, à la télé, sur les réseaux sociaux, les enfants savent. Et donc nous, quand on arrive tard et qu'on leur parle aussi de santé sexuelle, mais quand en les menaçant en fait, attention, si tu ne fais pas attention, tu auras une IST. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir un bébé. Alors qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche positive. C'est quoi sa santé sexuelle? Comment se protéger? C'est quoi mon corps? À quel point il est important? Quelles sont mes limites? Quelles sont les limites que je dois imposer à l'autre? Qu'est-ce que je dois accepter ou refuser? Je reste persuadée qu'une personne qui a été élevée, qui a grandi, qui a confiance en elle, n'acceptera pas que son compagnon lui dise bah, « t'as qu'à te débrouiller pour la contraception » ou « il faut l'enlever, ça me gêne » sans chercher ensemble une solution qui convienne aux deux. Mais sauf que si on prend les choses trop tard et qu'on encourage les femmes à garder un compagnon coûte que coûte, parce que de toute façon, il va trouver une autre femme dehors, eh ben, on crée aussi ces situations où les femmes se retrouvent au pied du mur à devoir faire l'IVG parce qu'elles n'ont pas d'autre solution que de devoir élever encore un enfant que finalement, elles vont aussi se retrouver élevées toutes seules.
Et oui, normalement, il y a des cours d'éducation sexuelle. Normalement, ils sont censés avoir une heure d'éducation sexuelle chaque année, mais ce qui n'est pas encore ce qui est fait partout. Mais c'est en train de se développer, mais on sait qu'il y a des levées de boucliers, des fois des parents, chaque rentrée on entend parler, oui, ils veulent apprendre aux enfants les positions sexuelles, les choses comme ça, c'est pas ça le but des cours d'éducation sexuelle, c'est d'apprendre le respect du corps, le consentement, des notions qui sont importantes, et en fait à chaque fois il y a toujours des brochures qui circulent, voilà ce qu'ils veulent apprendre à nos enfants, vous vous rendez pas compte, on va leur parler des positions, des transsexuels, des machins, ah, regardez ce qu'on montre aux enfants de maternelle, du coup les parents se mettent en porte-à-faux, aussi des gens qui veulent éduquer les enfants. Et quand on parle de consentement, il faut aussi éduquer les enfants aux violences intrafamiliales. En fait, c'est pas dans une famille où il y a déjà de l'inceste, des attouchements, des choses comme ça qu'on va expliquer à l'enfant c'est quoi la limite, c'est quoi son corps. C'est pour ça qu'il faut commencer tôt.
Et le problème, c'est que souvent, en fait, les parents prennent le problème à l'envers. Hein. C'est-à-dire que, en fait, ils pensent qu'en discutant de contraception avec leurs enfants, c'est les inciter en fait à commencer à en fait une vie sexuelle, alors que pas du tout.
Les enfants sont curieux. On est curieux de nature. Plus on va essayer de leur cacher des choses, plus ça va attirer leur curiosité. Alors qu'en fait, le fait d'avoir en classe quelqu'un en face d'eux, que le fait d'utiliser certains mots qui vont entre eux rigoler, et quand ils vont voir que ça ne va pas choquer l'adulte et qu'ils vont poser des questions simples et que l'adulte va répondre, et bien finalement, cette histoire de tabou, de trucs cachés va disparaître. Et comme ben, c'est pas caché, ben, la curiosité est moins intéressante. Et on s'est rendu compte que dans les pays où c'est obligatoire, comme la Norvège, la Suède, où ils sont vraiment très appuyés sur l'éducation à la santé sexuelle, ben, l'âge du premier rapport a beaucoup reculé. Donc, comme quoi, en parler aux enfants aussi, c'est les aider à faire de bons choix.
Merci à tout le monde. Et puis, nous entrons chez nous avec beaucoup d'informations. Hein. Vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'IVG. Déjà, je ne savais pas du tout comment ça se passe. Hein. Puis voilà, nous partons avec nos questions en attendant la nouvelle table ronde de l'association Liane Panier que je vous demande d'applaudir. Voilà. Merci à tous.
Il est sûr que nous avons appris beaucoup de choses et nous avons surtout appris
à ne pas juger les personnes. Tous les cas sont différents. Nous le disons, le seul juge reste le Tout-Puissant. Dieu notre Père que nous avons découvert en la personne de Jésus-Christ. Chacun a sa petite idée là-dessus, mais il était important pour nous qui vivons au quotidien des situations de la vie de comprendre. Nous avons à nous informer sur tout et après, nous nous ferons notre opinion. Allez, bye bye. Kéberet Pamoli et puis à la semaine prochaine pour une toute autre émission.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude l'émission Justice et Paix animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Et aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.